Nous allons donc reprendre les commandements de Dieu, et cette fois-ci nous allons parler du 10e commandement de Dieu, qui dit « Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain ». En réalité, ce que le rédacteur des commandements de Dieu spécifie, ni sa femme, ni son âne, ni son champ, ni rien de ce qui lui appartient, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. C'est en quelque sorte la justification du droit de propriété, qui n'est pas absolu. Notamment, je ne parlerai même pas de l'esclavagisme, mais on n'a pas le droit de se servir de ses biens pour nuire au prochain, mais on a le droit d'en faire un usage conformément à la déontologie qui fait que ce soit pour vivre soi-même, pour faire vivre sa famille. Le droit de propriété n'est pas un vol, comme l'ont prétendu certains. D'ailleurs, si la propriété est un vol, on se demande bien qui on volerait. Au rebours du 9e commandement, tellement spirituel, le 10e semble ne s'intéresser qu'à des choses matérielles, presque à ras de terre. C'est, de fait, le commandement du désir du concupiscible, comme disait saint Thomas d'Aquin. Mais tout désir est-il mauvais? Parmi les aphorismes de Barenton Confiseur, un livre dont je ne saurais recommander la lecture, parfaitement laïque d'ailleurs, assez humoristique et qui date d'environ 1925. C'est dans ce livre que l'on trouve entre autres que la concurrence est un alcaloïde, à petite dose c'est un excitant, mais avec excès c'est un poison. On ferait bien actuellement de méditer cette phrase toute simple. Donc Barenton Confiseur dit entre autres cette phrase pleine de profondeur « N'oubliez pas que l'homme est l'enfant du désir et non pas une création du besoin. » C'est le reflet laïque mais fidèle de la pensée de saint Augustin « Notre âme ne trouve de repos que lorsqu'elle se repose en Dieu. » L'homme est un être de désir, ce désir est source de mille tourments et ce désir n'est jamais pleinement satisfait. On pense toujours à avoir autre chose, à avoir plus. Nous en faisons maintenant la triste expérience. Il faut de la croissance. La croissance, c'est le désir. Donc, c'est tellement vrai que les principaux courants religieux d'Asie, dont je pense au brahmanisme et au bouddhisme, en sont venus à assimiler le désir au mal en soi. Toute leur philosophie consiste à apprendre à se passer de tout. Les cyniques, comme Diogène, étaient déjà tentés par cette position. Diogène avait cassé son écuelle le jour où il a vu un petit garçon boire dans le creux de sa main. Mais est-ce là une attitude humaine? Dans son traité des passions, saint Thomas d'Aquin a dit que les passions existaient puisque le Christ a eu des passions, et d'énumérer les 11 passions et les circonstances dans lesquelles le Christ a pu être triste, gai, en colère, etc. Disons que les passions sont un explosif à manier avec précaution. Que serait un artiste qui n'aurait pas la passion du beau, un philosophe qui n'aurait pas la passion du vrai, sinon une espèce de trafiquant qui voudrait, en manipulant ses notions, gagner le plus d'argent possible. Ce serait ou alors comme ce philosophe qui a de Rabelais, dont Rabelais parle, qui compte se borner de contredire chaque chose qu'on lui donnait. Les désirs humains, on peut en compter trois. Il y a d'abord les désirs animaux. Comme tous les animaux, l'homme a faim, soif, et le moment venu est poussé à se reproduire. Toutefois, il est dépourvu de certains garde-fous habituels chez les animaux. Par exemple, il peut se tromper de champignon. Ses appétits sont comme intellectualisés et se compliquent vite dans le raffinement. C'est ainsi que l'homme a inventé la cuisine, toutes sortes de sauces et de boissons, mais malheureusement, il peut en abuser. Quant aux relations entre hommes et femmes, on a pu écrire que l'homme, par opposition à la femme en ce sens, cherche toujours à obtenir la même chose d'une femme, mais s'y prend de mille manières différentes. Alors que la femme cherche toujours à obtenir mille choses différentes et s'y prend toujours de la même manière. Les parades nuptiales des animaux sont uniques pour chaque espèce, alors que pour l'homme, elles sont infinies. Ce qui est une preuve supplémentaire du côté spirituel de l'homme. Dès lors habitué à analyser et approfondir ses sensations, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, est tenté par la curiosité et par les expériences inédites, autrement dit, n'étant plus aussi étroitement programmé que les animaux, il risque de se laisser déborder par son imagination, qui, hélas, devient facilement perverse. Dans le domaine social, on peut dire que la vie en société comporte ses obligations, avec pour corollaire une foule de désirs légitimes en soi, mais qui peuvent plus ou moins facilement être déformés par la subversion. Par exemple, le désir du soldat de servir sa patrie se change en recherche de vaines glorioles. Le professeur devient pontifiant, l'ingénieur devient technocrate. La déviation la plus grave est celle que l'activité de saint Thomas appelait de la plus haute forme de la charité, c'est-à-dire de la politique. Les hommes politiques devraient être animés de la passion du bien commun, alors que trop souvent ils ne luttent que pour le pouvoir, quand ce n'est pas simplement pour le tiroir-caisse. Et comme ils n'ont aucune autorité, car l'autorité s'exerce toujours au service d'un autre que l'on souhaite à son niveau, différence entre autorité et pouvoir. L'autorité du maître cherche à amener le disciple à son niveau. Le pouvoir ne cherche qu'à exercer sa puissance pour obliger l'autre à faire toutes ses volontés sans aucun discernement. Et comme les hommes politiques actuellement, beaucoup d'hommes politiques actuellement n'ont aucun pouvoir, leur pouvoir devient tyrannique. Rien n'est plus tyrannique qu'un pouvoir sans autorité. Hélas, nous en avons tous les jours l'expérience dans tous les domaines et dans tous les lieux de la société. On a la foire d'empoigne actuelle où le pouvoir n'est plus que la possibilité d'accès à de grasses prébendes, à des avantages plus ou moins occultes et à la satisfaction de vanités méprisables. On peut ranger dans cette catégorie mains artistes qui, au lieu de servir la beauté comme c'est leur devoir, ne cherchent qu'à éblouir un public crédule avec du clinquant et de la pacotille, ce qui leur évite un travail pénible. Comme celui qui exposait simplement une pissotière dans un musée en disant que c'était toute son inspiration était là-dedans. Au-delà de toutes ces déviations, il y a le désir de tout être humain d'être reconnu en société avec toute sa dignité et surtout sa capacité de servir et d'aimer. Le désir de servir, alors là, pose dans les plus grandes situations de l'être humain, le désir de Mère Teresa n'est absolument pas le désir d'un faussaire, c'est quand même un désir. Il y a enfin les soifs de l'âme. Les désirs les plus élevés restent les désirs métaphysiques que seul l'homme peut avoir, puisque seul parmi les créatures terrestres, il est créé à l'image de Dieu. Et cela, en étudiant le désir, nous en avons une preuve manifeste. Nous n'aurons jamais fini de contempler cette merveille inouïe dans l'élan d'amour qui s'impose. Ce désir entraîne si loin que la plupart des hommes se croient obligés de ruser avec lui, de peur de se brûler les ailes, du moins aux yeux du monde. On essaie de s'étourdir par les plaisirs de cette terre, on se distrait au sens pascalien du terme pour ne pas penser à ce Dieu qui nous aime et nous attire. Certains vont jusqu'au bout de cette absurdité en niant Dieu contre toute évidence. Sartre n'a-t-il pas écrit cette parole horrible « Dieu veuille qu'ils en soient repentis »« Je ne crois pas en Dieu car si Dieu existe, je n'existe pas. » Lucidité et orgueil satanique. Cette soif de l'âme est une soif d'adoration, la plus haute activité humaine selon Aristote, qui pourtant était païen. L'homme est donc un être de désir, puisque rien sur cette terre ne saurait le satisfaire totalement et durablement. L'homme a une capacité d'amour infini, et seul l'amour infini peut le contenter. Alors essayons d'analyser la corruption des désirs, les passions personnelles. L'expérience montre que même les mystiques les plus élevés se trouvent entraînés, comme le dit saint Paul, à ne pas faire le bien qu'ils voudraient et à faire le mal qu'ils ne voudraient pas. Triste expérience dont la source est dans notre nature même, blessée par le péché originel. Nous devons durement apprendre à réduire notre corps en servitude, sachant que temple du Saint-Esprit, il est appelé à la résurrection. Cette nécessité ne s'applique pas seulement au plaisir sensuel, mais parfois à l'ivresse intellectuelle du savoir. Quand je dis en rendre notre corps en servitude, ça ne veut pas dire se priver de tout, mais ça veut dire rester maître de ses désirs. Nous devons apprendre à respecter des secrets et même à modérer des appétits parfois gloutons de notre intelligence. Toutes les expériences ne sont pas bonnes à faire, tous les livres ne sont pas bons à lire, tous les spectacles ne sont pas bons à voir. Certes, cela est plus ou moins difficile selon la nature de chacun, mais la règle reste bonne pour tous. Il y a aussi le péché de la société. Il est certain que nous vivons dans une société qui a poussé très loin la glorification de l'envie, ce péché capital qui est la cible principale du 10e commandement. Et actuellement, nous vivons sous le règne de l'envie. Il n'y a qu'à écouter les bulletins d'information. En politique d'abord, sous couvert d'égalité, on attise la haine contre les possédants, les privilégiés, les nantis. Il est curieux de lire sur le même journal qui fulmine contre le caractère des inégalités, des réclames affirmant « Soyez parmi les rares privilégiés qui habitent tel hôtel, disposent de tel téléphone ou commandent leur beurre chez tel fournisseur. » Cela amène naturellement à parler des réclames en tout genre, qui même décorées du nom de publicité ont les effets les plus pernicieux. Faire croire que seuls les damnés de la terre n'ont droit ni aux vacances à Bangkok, ni au canapé de luxe, ni à la voiture de sport, est le plus sûr moyen de fabriquer des aigris à la chaîne, d'attiser les révoltes les moins justifiées. Sans parler de la prolifération des jeux de hasard, véritable escroquerie à l'espérance de marchands de rêves pourris et pourrissants. Il est d'ailleurs curieux que les gains des jeux de hasard soient glorifiés, alors que celui qui a réussi à peine à avoir le millième de ses gains au prix d'un travail acharné est considéré comme riche et nanti. Certains opèrent à l'échelle mondiale de ces jeux de hasard, laissant entendre à des peuples entiers que tous leurs malheurs sont dus aux autres, par exemple aux séquelles d'un colonialisme qui au moins donnait à manger à tout le monde. Colonialisme dont la disparition il y a presque 200 ans a fait de Haïti la perle des Antilles. Le pays le plus pauvre du monde. Ce genre de mensonge délibéré est bien agréable. Il justifie tous les vols, toutes les agressions, en évitant la peine de balayer devant sa porte. Et ne confondons pas la nécessaire lutte contre la misère avec une recherche du luxe pour tous, que saint François d'Assise n'aurait certainement pas approuvé, ni l'enfant Jésus dans sa crèche. Au-delà de l'envie se trouve toujours l'égoïsme et surtout l'orgueil. Replié sur lui-même, l'homme cherche à s'étourdir en pensant qu'il est le meilleur, donc que tout lui est dû. Ce qu'il ressent comme l'essence de sa dignité, laquelle est ailleurs. Rage du motocycliste qui, voyant une grosse voiture, ne songe qu'à en chasser le conducteur pour prendre sa place, puis le persifler s'il doit se contenter d'aller à pied, c'est le conducteur. Tous les péchés capitaux y passent, sauf peut-être la luxure. Outre l'envie, on y voit la colère, la gourmandise devant un bien délectable, l'avarice, car il n'est pas question de donner quoi que ce soit, et la paresse, car on ne va quand même pas se mettre à travailler pour avoir de quoi vivre. C'est sur ce fumier lamentable que prolifère la faune, hélas actuelle, des casseurs, loubards et autres sous-produits de notre civilisation, qui gâchent ce qu'ils ne peuvent accaparer, par exemple en barbouillant les murs, ou qui s'adonnent au vandalisme. On dira que c'est un drame dont ils ne sont pas seuls responsables, et c'est vrai, car attirer sans fin des désirs insensés, en laissant croire que leurs objets vous sont dus, ne peut que finir mal. La société mercantile du marketing et de l'économisme mène droit à la délinquance, comme le montre la manière la plus anodine, le nombre de vols dans les supermarchés. La prochaine fois, nous terminerons le 10e commandement de Dieu, avant de nous attaquer au premier, puis à l'Apocalypse.